RFI, 7h à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Martin Guez.
Bonjour Julien Coquelrouem, bonjour à toutes et à tous.
La Turquie est dans la rue pour une quatrième nuit consécutive.
Un demi-million de personnes à Istanbul, selon les soutiens des Kerem İmamoğlu, le maire de la ville, principal opposant au président Recep Tayyip Erdogan, qui a passé la nuit au palais de justice, entendu dans le cadre de son arrestation pour corruption et terrorisme. Accusation sans fondement, répond İmamoğlu. La rue gronde de plus en plus fort. Nous serons en ligne avec notre correspondante Anand Loer dès le début de ce journal.
La grogne aussi en Israël,
où les manifestants appellent dans les grandes villes du pays le gouvernement à respecter l'état de droit. Israël s'enfonce dans la crise institutionnelle. Benjamin Netanyahou tente ce dimanche de destituer la procureure générale. Au Niger, le pays sous le choc. 3 jours de deuil décrété après l'attaque d'une mosquée dans l'ouest du pays, dans la région des trois frontières. Au moins 44 civils ont été tués lors d'une attaque terroriste de l'État islamique au Sahel. Le pape va mieux et sort ce dimanche de l'hôpital après 5 semaines d'hospitalisation. Julien, nous serons aussi aux États-Unis pour La Guerre des œufs et au cinéma pour Aïcha, nouveau film tunisien qu'a vu pour nous Elisabeth Le Carré.
Ville au soutien de son maire. Istanbul est dans la rue.
Des dizaines de milliers de personnes dans la rue pour la quatrième nuit consécutive pour soutenir Ekrem İmamoğlu, arrêté pour corruption et terrorisme. Des accusations immorales et sans fondement, dénoncent-ils les manifestants qui se sont rassemblés devant l'hôtel de ville et devant le palais de justice Istanbul, où l'on retrouve notre correspondante en Turquie, Anand Loer. Bonjour Anne.
Bonjour.
Ekrem İmamoğlu a passé la nuit au palais de justice d'Istanbul. Est-ce qu'il est vexé désormais sur son sort?
Alors pas encore, mais ça ne saurait tarder, après avoir été entendu à 2 reprises au cours de la nuit par un procureur, puisqu'il est poursuivi dans le cadre de 2 enquêtes. Ekrem İmamoğlu a été présenté à un juge, face auquel il s'est défendu pendant près de 2 heures. Le maire comparé avec 90 autres personnes. Le parquet a requis l'emprisonnement pour toutes, notamment donc pour Ekrem İmamoğlu, qualifié par le procureur de leader d'une organisation criminelle. La décision sera annoncée quand tous les suspects auront été entendus par le tribunal. La famille du maire d'Istanbul, le chef de son parti, le CHP Özgür Özel, et le maire d'Ankara, Mansur Yavaş, élu du même parti, sont à ses côtés. Ekrem İmamoğlu leur a fait passer un message. Il demande à sa famille de se préparer au pire, mais il assure qu'il reste fort et il demande à ses partisans d'être forts également. Il dit enfin se rendre compte que ce processus provoque, je le cite, un grand réveil en Turquie. Ce dimanche est un jour doublement important pour le maire d'Istanbul et son parti, puisque le CHP organise une primaire pour désigner son candidat à la prochaine présidentielle prévue en 2028. Ekrem İmamoğlu est seul en lice et il sera, quoi qu'il advienne, désigné aujourd'hui.
Merci Anand Loer en direct d'Istanbul sur RFI.
Autre mobilisation en Israël cette fois-ci.
À Tel Aviv, à Jérusalem, à Haïfa, pour protester contre les multiples atteintes à l'état de droit dans le pays, le chef de l'opposition Yair Lapid, qui menace même d'appeler à la grève générale si le gouvernement Netanyahou ne revient pas sur sa décision de limoger Ronen Bar, le chef du renseignement intérieur. Une décision suspendue par la Cour suprême israélienne, le bras de fer entre exécutif et judiciaire qui se poursuit, puisque ce dimanche, le Premier ministre va tenter de destituer le procureur de l'État, promesse faite par Benjamin Netanyahou à ses partenaires politiques au sein de sa coalition. À Jérusalem, Michel Paul.
Après le limogeage du chef du Shin Bet, c'est maintenant le tour de la procureure de l'État qui cumule les fonctions de conseillère juridique du gouvernement israélien. Le Conseil des ministres va entamer aujourd'hui une procédure de révocation de Gali Baharav Miara. Pour le politologue Menachem Klein, ce ne sera pas chose aisée.
Netanyahou ne destitue pas à ce stade la procureure de l'État. Il l'éloigne tout simplement de toute influence et espère qu'elle va démissionner. Mais je ne crois pas qu'il ait l'audace de franchir le pas pour la limoger. Cela ne signifie pas que cela ne se produira pas par la suite.
Une procédure qui est un danger sans précédent pour le pays, affirment les présidents des universités israéliennes, qui rappellent que la procureure est la gardienne des droits civiques et individuels des habitants du pays. L'opposition israélienne, elle, se mobilise contre les dernières mesures prises par le Premier ministre israélien et préconise la grève générale s'il va contre la justice. De son côté, dans une vidéo, Benjamin Netanyahou a assuré qu'il n'y aura pas de guerre civile et qu'Israël restera un État démocratique. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Les manifestants qui ont aussi protesté contre la reprise de la guerre à Gaza. Au moins 520 Palestiniens sont morts depuis mardi, selon la défense civile gazaoui. Reprise des bombardements aussi au Liban. 8 personnes sont mortes hier lors de raids israéliens en réponse à des tirs de roquettes tirés depuis le territoire libanais. Des tirs condamnés par Paris qui exhortent par ailleurs Israël à la retenue. La crise institutionnelle en Israël, on y revient également longuement en une de notre site internet. Article à retrouver sur le www.rfi.fr.
RFI, 6h06 à Niamey, le Niger sous le choc.
Trois jours de deuil décrété alors que 44 personnes ont été tuées lors d'une attaque terroriste dans l'ouest du pays. Attaque dans la région de Tillabéri, les djihadistes ont encerclé la mosquée du village de Fambita vendredi avant d'ouvrir le feu, visiblement un attentat de représailles alors que l'armée nigériane a multiplié ces derniers jours des opérations contre l'État islamique au Sahel. Dans cette région dite des trois frontières, où les attaques sont quasi quotidiennes, un massacre d'une rare cruauté condamne le ministère de l'Intérieur nigérien qui promet de traquer les auteurs de ces crimes. Des crimes qui ont choqué Amadou Haruna Maïga, coordinateur de l'Union nationale pour la sécurité, la paix et la cohésion sociale. Il appelle l'armée et la population à tout faire pour arrêter les djihadistes.
À 14h, les gens étaient dans la mosquée pour la prière du Jumma. Ils sont venus ouvrir le feu. 44 morts et des blessés légers et des blessés graves. Mais je pense que trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faut arrêter cette descente aux enfers. Le bilan est lourd. Et comme je le dis souvent, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Parce que nous civils, nous populations, en dehors de vos micros, qu'est-ce que nous pouvons faire pour traquer ces bandits-là qui tous les jours endeuillent les populations? Il faut que l'État, dans toute sa grandeur, prennent ses responsabilités, toutes ses responsabilités. On ne dit pas que l'État ne travaille pas, on ne dit pas que les FDS ne travaillent pas. Nous apportons notre soutien aux FDS. La guerre là, ça concerne tout le monde. Chacun a ce qu'il doit faire pour nous amener à finir avec. En tout cas, pour soulager la souffrance des populations.
Amadou Haruna Maïga qui s'exprimait ce samedi en marge d'une conférence de presse à Niamey.
Trois jours après s'être emparé de Wali Kale Centre, le M23 annonce s'en retirer.
Pour favoriser un climat propice au dialogue, selon les déclarations de la FCM23, qui s'était donc emparé de la localité du Nord Kivu mercredi, ville minière stratégique sur la route de Kisangani. Un retrait qui ne semble toutefois pas encore effectif. La situation toujours confuse ce samedi soir. Des détonations étaient rapportées à RFI et des combattants du M23 étaient encore signalés dans plusieurs quartiers.
Une attaque de drones russes à Kiev cette nuit.
Et oui, attaque massive selon le maire Vitali Klitschko. Au moins deux morts, de gros dégâts aussi dans la capitale ukrainienne. L'attaque qui intervient alors que la Russie doit rencontrer les États-Unis ce lundi en Arabie Saoudite. Moscou qui dit aborder ses négociations dans un état d'esprit combatif et constructif. Alors que Steve Witkoff, l'émissaire de la Maison-Blanche, a lui fait l'éloge de Vladimir Poutine ce samedi. Ce n'est pas un mauvais type, a-t-il déclaré dans un podcast. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera à Paris jeudi prochain pour une réunion avec les alliés de Kiev.
Le pape François sort de l'hôpital ce dimanche.
Et c'est après 5 semaines d'hospitalisation, le souverain pontife de 88 ans souffre depuis la mi-février d'une double pneumonie. Il effectuera une convalescence d'au moins 2 mois, annonce le Vatican. Il devrait saluer les fidèles peu après midi, heure locale, au moment de sa sortie, sa première apparition publique depuis le 14 février. Correspondance au Vatican, Eric Sénanc.
La convocation d'une conférence de presse à l'hôpital Gemelli laissait présager une nouvelle d'importance. Elle a en effet été annoncée par le professeur Sergio Alfieri, qui coordonne l'équipe de médecins au chevet du pape François durant 5 semaines.
La bonne nouvelle que le monde entier attend, j'imagine, c'est que le Saint-Père va quitter l'hôpital. Ce dimanche, il retournera à Sainte-Marthe. De la part de toute l'équipe médicale qui l'a suivi ici au Gemelli, il est fortement recommandé qu'il suive aussi une période de convalescence pendant au moins 2 mois.
Cela faisait 3-4 jours qu'il nous demandait quand est-ce qu'il pouvait rentrer, a également confié le médecin au journaliste. Ce dimanche, avant de faire son retour au Vatican, François devrait se présenter au balcon de l'hôpital pour bénir les fidèles à l'heure de l'Angélus, mais il n'est pas sûr qu'il puisse prendre la parole. La question se pose désormais de savoir si le chef de l'Église catholique pourra assurer le marathon pascal qui arrive dans quelques semaines, ou même reprendre des voyages. Il est encore trop tôt pour le dire. Tout dépendra des progrès effectués, a prudemment répondu le porte-parole du Vatican. Eric Sénanc, Rome. RFI.
À la une également, Martin, aux États-Unis, la guerre des œufs a commencé.
Ah oui, devenu denrée rare, il coûte les œufs de la tête suite à l'épidémie de grippe aviaire qui sévit dans le pays. Plus de 30 millions de poules pondeuses ont été abattues depuis le mois de janvier. Les États-Unis confrontés à une énorme pénurie et qui se tournent vers l'extérieur. Des accords ont été passés avec la Turquie et la Corée du Sud. Mais ce n'est pas suffisant face aux besoins américains en pleine guerre commerciale avec son voisin canadien, par ailleurs premier fournisseur d'œufs aux États-Unis, Charlotte Cossé.
Sylvain Charlebois est spécialiste de l'industrie agroalimentaire. Malgré ses contacts avec les producteurs d'œufs et les grossistes dans le domaine, le directeur de laboratoire de l'université Dalhousie n'a pu réunir les informations précises.
On m'a promis un rapport pour me donner des chiffres concrets par rapport à ce qui se passe avec les ventes aux États-Unis, puis on m'a pas donné rien. Ça veut donc dire qu'ils veulent pas en parler. C'est très sensible, oh oui.
En février, Donald Trump augmente de 25% les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium canadien. Mi-mars, Ottawa riposte et publie une longue liste de produits en provenance des États-Unis assujettis à une hausse douanière. S'ensuit également une mobilisation citoyenne importante.
Normalement, il n'y aurait même pas de question, là. Mais là, actuellement, vous savez, à l'épicerie, les Canadiens achètent tout sauf américain, là. On déaméricanise l'épicerie au Canada. Alors, je ne pense pas que les Canadiens veulent apprendre que les producteurs avicoles aident les Américains et, de facto, aident la cause de Donald Trump parce que les œufs sont un symbole important. C'est la protéine animale la moins chère, là. Et ça, ça l'affecte beaucoup d'Américains.
Les économies américano-canadiennes sont étroitement liées. En 2023, Ottawa estimait que chaque jour, l'équivalent de près de 3 milliards de dollars de biens et de services était échangé chaque jour entre les deux pays.
Charlotte Cosset du service économie de RFI face au manque de Washington appelle l'étranger à la rescousse. C'est le titre d'un article également à lire sur notre site internet www.rfi.fr.
Enfin, on termine au cinéma pour voir Aïcha.
Film tunisien qui nous entraîne dans le sud du pays où vit Aya, la vingtaine. Elle se sent prisonnière de son quotidien, mais elle survit à un accident de la route et alors elle décide de prendre sa vie en main direction Tunis. Aïcha, nouveau film de Mehdi Barazoui qui a vu pour nous Elisabeth Lecarré.
Jusqu'où peut-on aller pour conquérir sa liberté? Employée dans un hôtel, Aya travaille comme une bête de somme pour payer les dettes de sa famille qui veut lui faire épouser un riche divorcé. Seule survivante d'un accident de bus, elle saisit l'opportunité pour disparaître et se réinvente une nouvelle vie à Tunis sous un faux nom. Mais il suffit qu'un soir, un homme la reconnaisse en boîte de nuit et voilà Aya piégée face à d'autres formes d'oppression, de chantage et de corruption policière. Aïcha pose la question du courage, de la résilience et du désir d'indépendance d'une jeune femme, telle que le patriarcat s'acharne à les décourager. Avec ce nouveau long métrage, Mehdi Barzaoui dessine un portrait au scalpel de la société tunisienne en lui donnant la forme séduisante d'un thriller. Sans doute, le film se repose-t-il un peu trop sur la performance magnétique et le charisme de son actrice, Fatma Sfar, mais sa force n'en demeure pas moins réelle.
Et c'est à Tunis que se referme ce journal, où il est 7h12, comme ici à Paris, où je vous redonne la main, Julien Coquelroem.
Merci Martin Guèze, à tout à l'heure. RFI Matin, la suite, un nouveau point sur l'info africaine dans moins de 20 minutes. D'ici là, notre tour du monde des correspondants nous parle ce matin des tensions autour de l'eau de plus en plus fréquentes aux quatre coins du globe avec le réchauffement climatique. Au lendemain de la journée mondiale de l'eau, nous sommes en Inde, au Bangladesh, au Mexique, aux États-Unis, au Tchad et en Égypte. Mais tout de suite les sports. Avec vous Antoine Grenier du football, la Ligue des Nations et la France, verra-t-elle le drapeau à damier? En tout cas, il lui faut un exploit face à la Croatie.
Battu 2-0 et archi-dominé par les Croates à Split jeudi dernier en quart de finale aller, les Bleus sont dos au mur. Un faux départ quelque peu inquiétant face à des Valtreni vieillissants mais bien plus efficaces que les tricolores. Luka Modric, bientôt 40 ans, avait notamment livré une prestation de grande classe face aux Français. Le Ballon d'Or 2018, devenu il y a peu le plus vieux joueur de l'histoire à porter le maillot du Real Madrid et qui continue d'impressionner notamment le sélectionneur français Didier Deschamps.
Modric, il y a un moment qui fait des matchs de ce niveau-là. C'est un très très grand joueur qui a toujours été, pour son équipe nationale, un joueur décisif, très influent. Il joue au Real Madrid, il joue pas des matchs de 90 minutes tout le temps, mais il joue. Pour en arriver et se maintenir à ce niveau-là, c'est un grand professionnel qui se gère, évidemment, qu'il a une influence dans l'équipe dans laquelle il joue. Évidemment, il marque le football croate de par tout ce qu'il a fait, mais il se maintient toujours à un très très bon niveau.
France-Croatie, quart de finale, retour de Ligue des Nations, coup d'envoi 19h45, temps universel.
Et les trois autres quarts de finale retour se disputent en même temps, avec notamment le choc entre l'Allemagne et l'Italie.
Rencontre disputée à Dortmund, un match à domicile pour une Mannschaft qui va tenter de conserver son avantage. Les joueurs de Julian Nagelsmann, vainqueurs 2-1 à Milan jeudi. Mais malgré ce but d'avance, pas question de calculer, estime le sélectionneur allemand qui aborde ce match avec ambition, même s'il sent que la squadra azzurra n'a pas dit son dernier mot.
Il serait surprenant qu'ils cèdent sans se battre. J'ai déjà dit après le match que nous ferions bien de repartir à zéro. C'est amusant parce que quand vous obtenez un bon résultat à l'aller, vous discutez avec deux personnes différentes, l'une vous dit « Oh, c'est super, maintenant vous avez un avantage !» et la seconde vous dit « Oh, ce n'est pas vraiment un avantage parce qu'en face, ils n'ont plus rien à perdre. » Alors je me fiche de savoir si c'est un avantage ou un inconvénient, juste 0 à 0 et essayons de gagner le deuxième match aussi.
Allemagne-Italie, coup d'envoi 19h45 TU. Le vainqueur de ce quart de finale sera le pays hôte du Final Four. Une phase finale à laquelle espère bien prendre part l'Espagne qui accueille les Pays-Bas après le nul de partout du match aller. Tout comme le Danemark en déplacement au Portugal après s'être imposé 1-0 jeudi.
En cyclisme, Mathieu Van Der Poel, puissance 7.
Le Néerlandais, vainqueur de Milan-San Remo devant Philippe Ogana et Tadej Pogacar, décroche sa 7e victoire dans un monument. Van Der Poel se rapproche ainsi du podium des coureurs les plus titrés dans les 5 grandes classiques. Il rejoint Tadej Pogacar, Fabian Cancellara, Tom Boonen et Gino Bartali au Panthéon. Encore très loin cependant des 19 succès du mythique Eddy Merckx.
Enfin en tennis, Arthur Fils en 8e de finale du Masters 1000 de Miami.
Le numéro 1 français qualifié après l'abandon au 2e set du Canadien Gabriel Diallo. Fils qui menait alors 3-2 après avoir cédé la première manche 6-4. Au prochain tour, il affrontera l'Américain Frances Tiafoe, le 17e joueur mondial, vainqueur en 2 manches 7-5, 7-6 de l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina.
Merci Antoine Grenier. C'est un enjeu stratégique de plus en plus central dans ce monde interconnecté. Dans ligne de défense, ce matin, les câbles sous-marins à la une, avec notamment des accusations contre un cargo russe soupçonné de sabotage sur certains de ces câbles en mer Baltique. Aujourd'hui, la marine française ambitionne justement de devenir une référence mondiale dans la maîtrise des fonds marins et des câbles qui y circulent. Les forces navales travaillent depuis 3 ans pour développer leur capacité à agir dans les profondeurs des océans, Franck Alexandre.
D'une importance majeure, les grands fonds marins sont pourtant moins connus que la surface de la Lune. Et pour la Marine nationale, le réveil a sonné en 2007 quand un sous-marin russe a réussi l'exploit de déposer à l'aplomb du pôle Nord, par 4000 mètres de fond, un drapeau en titane aux couleurs de la Fédération de Russie. Un véritable signalement stratégique, se souvient le contre-amiral Cédric Chetaille, coordinateur central pour la maîtrise des fonds marins.
Un message qu'il voulait nous dire, c'est un espace commun, mais en fait c'est un espace qui appartient à ceux qui sont capables d'agir et d'intervenir à cet endroit-là. Donc moi, je suis capable de le faire. Vous, vous n'êtes pas encore capable de le faire. Aujourd'hui, on est en train de rattraper ce retard et on sera à très court terme capable de faire le même type de mission.
Pour accéder au grand fond, la Marine nationale peut déjà compter sur plusieurs robots autonomes pouvant descendre jusqu'à 2000 mètres. Et à court terme, l'objectif, c'est 6000 mètres.
6000 mètres, ça correspond à une ambition, à la vocation mondiale de la Marine française. On déploie nos forces partout dans le monde. On est capable d'atteindre 97% du plancher des océans quand on est capable d'aller à 6000 mètres de fond. Et quand on a la volonté, avec un robot, d'être capable de ramasser, de sectionner, de rassembler, de nouer, d'agir, il faut maintenir ce robot à quelques dizaines de centimètres de sa cible.
Nature, des sédiments, variations, du champ magnétique, cartographie, autant d'éléments qu'il faut maîtriser. Et la vitesse des manœuvres sous l'eau est également un élément clé, contre-amiral Chetaille.
Le milieu sous-marin ne permet pas une communication continue avec l'engin. Après la mission, quand on récupère le drone, il faut tout décharger rapidement pour pouvoir réorienter la mission suivante. Et c'est ce cycle de observation par le drone, exploitation de la mission, décision et orientation de la mission suivante qu'il faut mener le plus rapidement possible pour obtenir un cycle qui soit supérieur à celui de nos adversaires.
Câble de télécommunication sectionné accidentellement ou volontairement, la guerre hybride se joue aussi dans les grandes profondeurs et dans le collimateur des marines de l'OTAN. Il y a le navire espion russe Yantar, un bâtiment souvent présent le long des côtes européennes.
Le navire russe Yantar, c'est un navire très intéressant parce que c'est un des très rares navires au monde qui est spécialisé et qui est très moderne pour mettre en œuvre des capteurs et des engins en toute discrétion qui vont aller très profond. C'est un navire qu'on surveille, c'est un navire qu'on traque pour l'empêcher de nuire à nos intérêts et de restreindre ce qu'on appelle notre liberté de manœuvre. Ça veut dire qu'on ne veut pas que l'usage potentiel des fonds marins à partir d'un navire comme le Yantar ne nous contraigne.
La maîtrise des grandes profondeurs s'impose, en particulier pour la France, qui possède le 2e domaine maritime mondial. C'est aussi un défi technologique qui, à ce jour, n'est à la portée que de quelques marines dans le monde.
Ligne de défense avec Franck Alexandre.
RFI Matin.
Après célébrait la journée mondiale des glaciers vendredi, c'était hier la journée mondiale de l'eau, deux événements qui ne se succèdent pas par hasard. Deux conséquences du réchauffement climatique intimement liées, alors que la fonte des glaciers menace notamment l'accès à l'eau douce de 2 milliards d'humains au moins, dans un monde où déjà la moitié de la population est confrontée à des pénuries d'eau au moins un mois chaque année, des difficultés qui ne cessent de croître et occasionnent des conflits, des tensions. C'est à ces tensions hydriques qu'on s'intéresse aujourd'hui dans notre tour du monde des correspondants. Première étape en Asie, le long du fleuve Brahmapoutre qui traverse la Chine, l'Inde et le Bangladesh. Les autorités de Pékin ont lancé plusieurs projets de barrages en amont, au grand dam, plus en aval, de ces deux autres pays pour lesquels le Brahmapoutre est non seulement sacré, mais surtout crucial pour l'approvisionnement en eau, Léa Ojal.
Le Brahmapoutre représente plus de 30% des ressources en eau de l'Inde et 94% de celles du Bangladesh. 625 millions de personnes vivent dans son bassin, dont 80% sont des agriculteurs. Ce fleuve transfrontalier dont les ressources sont cruciales pour ces pays est source de tensions. La Chine a construit plusieurs barrages sur le cours supérieur du Brahmapoutre. L'Inde et le Bangladesh voient ces constructions comme une menace de la part de Pékin. Les autorités redoute en effet que la Chine utilise l'eau comme une arme politique. New Delhi craint une nouvelle dépendance vis-à-vis de la Chine. En réponse, l'Inde envisage également de construire un barrage sur le Brahmapoutre. Il devrait augmenter la capacité de stockage d'eau du pays. L'objectif, limiter l'impact du géant chinois.
Léa Ojal à New Delhi, plusieurs pays pour un seul fleuve et des tensions. C'est aussi le cas du Mexique et des États-Unis qui partagent trois fleuves dont deux sont particulièrement importants, le Rio Colorado et le Rio Grande, qui prennent leur source dans les montagnes rocheuses. Un accord de répartition existe bel et bien, mais avec le réchauffement climatique, les neiges diminuent et avec elles le débit des fleuves. La quantité d'eau qui parvient au Mexique est de plus en plus faible, Gwendolina Duval.
À tel point que le Rio Colorado, censé se jeter dans la mer de Cortés, ne l'atteint plus, ou alors très exceptionnellement, et ce depuis des années. Cela a évidemment des conséquences sur les populations. 40 millions de personnes dépendent de ce fleuve sur plus de 2300 km. À la fin de la course, côté mexicain, Tijuana est en crise et la communauté indigène de pêcheurs des Cucapas qui vit à l'embouchure se retrouve en plein désert. L'accord qui définit la répartition de l'eau entre les deux pays date de 1944. La quantité d'eau qui arrive jusqu'au Mexique est redéfinie chaque année à la baisse, moins 18% pour 2025. Le Mexique reproche aux villes américaines comme Las Vegas et surtout à l'agriculture intensive pratiquée notamment en Californie de s'accaparer la ressource. C'est à peu près le même problème pour le Rio Grande qui longe la frontière jusqu'au golfe du Mexique et qui souffre de surexploitation depuis des décennies. Dans ce cas-là, ce sont les États-Unis qui mettent la pression sur le Mexique, le Texas surtout, pour obtenir plus d'eau. Avec le nouveau gouvernement américain et la fin des financements des programmes environnementaux décrétés par Donald Trump, les tensions sont encore plus vives.
Gwendolina Duval au Mexique et cap à présent sur le continent africain, le lac Tchad, au cœur du Sahel, dans l'ouest du Tchad et à la frontière entre le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Cette oasis d'eau douce, alimentée par deux rivières, le Chari et le Logone, fait vivre et travailler 49 millions de personnes. Pas de sécheresse ici, bien au contraire. En décembre dernier, le lac était en crue et atteignait une superficie inédite en plus de 60 ans. Depuis les années 90, les pluies au Sahel central ont augmenté, d'autant plus depuis 2015 avec le réchauffement climatique, Nadia Ben Mahfoud.
Avec plus de pluie, l'écosystème fonctionne mieux et les zones faciles à mettre en culture en tirent des bénéfices. La végétation du lac augmente également, des typhas, des sortes de roseaux poussent en abondance et pourraient être travaillés pour en faire du bois de chauffage, par exemple. Mais n'étant pas exploitée, cette végétation entrave les déplacements sur le lac et rend donc la pêche et le commerce plus difficiles. Par ailleurs, la zone étant dans une topographie très plane, l'augmentation de la superficie du lac provoque des inondations et contraint aussi les populations à s'installer plus loin, en particulier sur la cuvette nord du lac où ils se retrouvent directement dans le sable. Sans terre facilement cultivable, ses habitants se tournent donc vers de nouvelles activités. Ils coupent des arbres pour un usage domestique ou commercial et accélèrent donc l'ensablement du lac. Paradoxalement, cette augmentation de l'eau dans le lac Tchad a aussi des effets négatifs. Selon les chercheurs, une maîtrise des infrastructures qui entourent le lac Tchad est primordiale pour permettre la mise en place d'un développement agro-pastoral régional conséquent.
Nadia Ben Mahfoud, N'Djamena, et puis toujours en Afrique, mais plus à l'est, direction l'Égypte. L'Égypte qui est le don du Nil, disait autrefois le géographe grec Hérodote. Mais 25 siècles plus tard, ce pourrait être bientôt de l'histoire ancienne. Selon les Égyptiens, le débit du fleuve est menacé par le grand barrage éthiopien sur le Nil bleu, Alexandre Bouchianti.
L'Éthiopie est à l'origine de 80%
40% des eaux du Nil parvenant à l'Égypte, des eaux qui culminent avec la crue annuelle qui, selon la mythologie pharaonique, est constituée des larmes de la déesse Isis pleurant la mort de son époux Osiris. Une baisse du débit serait catastrophique pour une Égypte bien en dessous du seuil de pauvreté hydrique. L'Égypte dispose de 60 milliards de mètres cubes d'eau par an, à 95% du Nil pour 107 millions d'Égyptiens plus 8 millions de réfugiés soudanais, syriens, libyens, yéménites, etc. Pour tenter de combler le déficit, on recycle 20 milliards de mètres cubes d'eau, un chiffre qu'il faudra doubler ainsi que décupler celui du dessalement, un miracle qui pourrait être réalisé grâce au dieu Ra, le disque solaire et son énergie, sans doute un peu de nucléaire.
Alexandre Bucianti au Caire est notre tour du monde des correspondants à retrouver sur RFI.fr. Bientôt 6h30 en temps universel. Et avant le prochain journal, votre rendez-vous du dimanche avec C'est dans ta nature. Et cette semaine, un phénomène qui est presque une exception humaine dans le vivant. La ménopause qui ne touche sur Terre quasiment que les femmes, Florent Guigneur. Is this my new life?
Irritability. Oui, c'est une nouvelle vie qui commence pour les femmes autour de la cinquantaine, quand elles ne sont plus capables de donner la vie, mais qu'il leur reste encore beaucoup à vivre. C'est ce qu'on appelle la ménopause. It's menopause. No more children can be bred. Eh bien, les femmes ne sont pas complètement seules. Il y a 5000 espèces de mammifères sur la planète et 5 connaissent la ménopause. Alors pas les primates, pourtant nos cousins les plus proches, non, mais des mammifères marins, des cétacés, des baleines à dents comme les orques et les bélugas. Les orques sont fertiles jusqu'à 40 ans et peuvent vivre 90 ans, à peu près comme les femmes. Mais arrêter de se reproduire, c'est une anomalie dans le monde animal où il s'agit d'abord de perpétuer son espèce, sauf s'il y a des avantages. Et d'abord une moindre concurrence, explication de Jean-Luc Jung, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle.
On va éliminer les compétitions pour les mâles et pour la reproduction. Les femelles qui ne sont plus dans une phase reproductive actives, sont plus disponibles pour autre chose.
C'est la théorie de la grand-mère appliquée aux cétacés. Les grand-mères qui ont de l'expérience protègent les plus faibles des prédateurs et savent où trouver la nourriture.
Les femmes auraient plus de temps pour s'occuper des enfants, pour s'occuper des petits-enfants. Au final, donc, on peut imaginer moins d'enfants, mais on aurait des enfants qui arriveraient à l'âge adulte plus fréquemment. La ménopause.
Et pour la grand-mère orque, c'est vrai qu'il y a du boulot dans un océan hostile.
Les cétacés ont une vie sociale extraordinairement forte. Et ça doit être particulièrement difficile d'élever des jeunes dans le milieu marin. Il n'y a pas d'endroit où se cacher, il n'y a pas d'arbre où se réfugier. Donc il faut des organisations sociales autour des enfants, des jeunes, qui leur permettent d'arriver à l'âge adulte.
Les cétacés forment des sociétés matriarcales. Et s'ils sont les seuls animaux non humains à connaître la ménopause, ce n'est peut-être pas un hasard, Jean-Luc Jung.
Les sociétés des cétacés sont quasiment tout le temps organisées autour des femelles. Alors est-ce que le fait que l'évolution soit arriver à la ménopause dans ces groupes, il y a ça, c'est possible. Je vis, c'est
naturel, c'est normal et ça fait pas mal. Et les mâles alors, ils assument leur rôle de grand-père ?
Oui, chez les éléphants, c'est vers l'âge de 15 ans que le jeune mâle quitte le troupeau maternel et prend son indépendance, mais pas tout à fait comme on a pu l'observer au Botswana. Les groupes de jeunes éléphants sont très souvent dirigés par un vieux mâle qui partage son expérience. Le problème, c'est que ces vieux éléphants, aux défenses d'ivoire particulièrement développées, sont la cible privilégiée des braconniers, ce qui menace ainsi les plus jeunes. Alors un peu de respect pour les mâles gris de plus de 50 ans.
Florent Guignard pour C'est dans ta nature, que vous retrouvez tous les dimanches et à tout moment quand vous le souhaitez sur notre site RFI.fr et notre application Pure Radio. Le journal dans une minute, à tout de suite.
RFI à Cluj, 94 FM. Sarre, 100.4 FM.
Du 15 au 23 mars, la Semaine de la langue française et de la francophonie invite à célébrer la langue française autour du thème « Prenez la parole ». Dictée, jeux, ateliers, spectacles, quiz, participez aux événements organisés en France et dans le monde. Une édition 2025 proposée par le ministère de la Culture. Plus d'informations sur culture.gouv.fr en partenariat avec France Média Monde.
Géopolitique.
Chantal Leroux.
Depuis le massacre début mars d'un millier de civils alaouites à l'ouest de la Syrie, le spectre d'un nouvel embrasement du pays a ressurgi. La transition est-elle menacée ? Le président par intérim, l'islamiste Ahmed al-Shara, réussira-t-il à cimenter une Syrie morcelée en communautés et ruinée par 13 ans de guerre civile ?
Géopolitique, Chantal Leroux.
Tout à l'heure, à partir de 18h40 TU.
RFI.